Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le pape François visitera une église évangélique à Caserte, dans la région de Naples, pour prier avec un pasteur engagé dans le dialogue écuménique. L'effervescence s'est emparée de la population qui compte beaucoup sur le soutien du Saint-Père dans un contexte économique et social difficile. Depuis octobre, plus de 57 000 mineurs, originaires essentiellement d'Amérique centrale, ont été interpellés à la frontière mexicaine des États-Unis, en majorité au Texas. Le gouvernement américain semble dépassé. Aux États-Unis comme dans le reste du monde, l'Église s'efforce d'être aux côtés des immigrés et des réfugiés. Le pape François entend associer les professionnels catholiques engagés dans tous les domaines pour mettre le Vatican à jour sur les réalités nouvelles. Vous entendrez Jean-Baptiste de Françu, le nouveau président de l'IOR. Sa nomination s'inscrit dans la vaste restructuration économique réclamée par les cardinaux et ordonnée par le Saint-Père. Jean-Baptiste de Françu est donc devenu mercredi président de l'IOR, Institut pour les œuvres de religion, surnommé la Banque du Vatican, en remplacement de l'allemand Ernst von Freiberg. Diplômé de l'École supérieure de commerce de Reims, ce financier français dirigeait à Bruxelles un cabinet de conseil en fusion-acquisition. Jean-Baptiste de Françu travaille sur la réforme économique du Vatican depuis qu'il a été nommé à la commission référente sur les structures économiques et administratives du Saint-Siège, aujourd'hui dissoute après la création du secrétariat pour l'économie. Il avait d'ailleurs été appelé à siéger dans ce nouveau dicaster de la Curie romaine. Hélène Détombe a rencontré Jean-Baptiste de Françu quelques heures après l'annonce de sa nomination.
D'abord et avant tout, l'IOR doit rendre service aux institutions du Saint-Siège qui ont besoin de communiquer, de faire des transactions avec le monde extérieur. Donc il nous faut un établissement équivalent à une banque qui nous permette de faire ces transactions. On pense déjà par exemple au musée du Vatican. Le musée du Vatican qui attire des millions de gens tous les ans. Ils ont des frais, ils communiquent avec le monde extérieur, il y a une librairie, il y a des tas de choses. Et donc il faut que l'argent circule. Et donc on a besoin d'une banque. Et pour le Saint-Siège, c'est important que cet établissement, encore une fois qui n'est pas une banque, mais un établissement financier qui joue ce rôle, soit un établissement sous contrôle du Saint-Siège, pour que le Saint-Siège sache exactement ce qui s'y passe. Deuxièmement, il est normal aussi que l'ensemble des dicastères, l'ensemble des congrégations, l'ensemble des diocèses avec qui nous partageons notre foi catholique puissent se rapprocher plutôt d'un établissement dans le cadre du Saint-Siège plutôt que d'autres banques commerciales quelconques qui ne partageront peut-être pas certaines des valeurs qui sont les nôtres. Mais malheureusement, à cause de certaines choses qui ne se sont pas passées comme elles auraient dû dans le passé, on a le sentiment quelquefois que cet établissement n'est peut-être pas en mesure de rendre l'ensemble des services. Ça n'est pas vrai et tout sera fait encore une fois dans les mois et les années à venir pour renforcer ce message, rendre service aux clients avec cette éthique catholique, et tous les produits que nous allons développer seront centrés autour de notre foi, seront centrés autour de valeurs très fortes qui font que les diocèses, les congrégations sauront que tout ce qui a été fait l'a été dans une étroite communion, si je puis dire.
Quelle sera votre marge de manœuvre ?
La même marge de manœuvre que tout autre dirigeant d'un établissement financier qui s'emploie à répondre aux impératifs des clients, qui cherche tous les jours à faire de son mieux dans un univers financier et économique qui n'est pas facile. On va faire de notre mieux, on va essayer de répondre à toutes les exigences, on se fixe des objectifs très précis. Maintenant, on ne sera peut-être pas toujours parfait, mais on demandera un peu de compréhension de la part de nos clientèles. Mais en tout cas, la volonté et le travail seront là pour nous amener dans cette direction.
En plein scandale, certaines voix avaient évoqué une fermeture pure et simple de l'IOR. C'est une option qui est totalement inenvisageable.
Je crois que le Saint-Père a été très précis dans son communiqué du 7 avril 2014. Il était important d'étudier la possibilité de fermer IOR. Parce qu'en étudiant la possibilité que l'on avait de pouvoir fermer IOR, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'IOR.
Vous l'avez dit, vous connaissez déjà les structures économiques et financières du Vatican. Quelle est la réalité que vous avez découvert en arrivant au Vatican ?
Une réalité très simple, une réalité qui peut-être n'a pas toujours évolué au cours des 15 ou 20 dernières années aussi vite que le monde financier dans lequel nous évoluons. Une réalité où Peut-être que, quelquefois, l'absence de professionnels de ces métiers qui sont devenus de plus en plus complexes, aussi bien au niveau de la construction des produits que de la complexité des marchés que de l'environnement juridique, a peut-être nui un peu au Saint-Siège. Il est évident que lorsque des hommes d'église, des prêtres, des évêques, des cardinaux sont en charge d'institutions financières, ça n'est pas leur centre premier d'activité, ça n'est pas là où ils ont reçu la plus grande formation. Et donc il est important, et c'est vraiment ce que le Saint-Père souhaite faire, d'associer de plus en plus des professionnels dans tous les aspects de la vie administrative et financière. Là, aujourd'hui, nous parlons de l'IOR, mais regardez tout ce qui est en train de se passer dans plein d'autres domaines, cette association d'efforts entre des membres du clergé et des professionnels catholiques engagés, tout ça pour aider l'Église, pour renforcer l'action de l'Église et pour renforcer l'action du Saint-Père.
C'était le nouveau président de l'Institut pour les œuvres de religion, Jean-Baptiste de Françu. Des indiscrétions circulaient depuis quelques jours dans la presse locale. Le pape François se rendra bien à Caserte, en Campanie. Le bureau de presse du Saint-Siège l'a confirmé tout en précisant qu'il s'agira d'une rencontre à caractère privé. Le mois dernier, un pasteur évangélique italien que le Saint-Père a connu quand il était à Buenos Aires a été reçu au Vatican. Le pape François lui a fait part de son intention d'aller visiter son église à Caserte. Ce déplacement d'une seule matinée, extrêmement simple et rapide, est à l'étude et pourrait avoir lieu le 26 juillet. Or, cette date coïncide avec les festivités en l'honneur de Sainte-Anne, patronne de la ville. À l'heure actuelle, aucun bain de foule n'est annoncé. Mercredi soir, l'évêché de Caserte et la police locale affirmaient encore ne pas être au courant de cette visite. Le pape François connaît depuis des années le pasteur Giovanni Traetino, qui dirige l'église évangélique de la Réconciliation à Caserte et qui est engagé depuis longtemps dans le dialogue œcuménique avec les catholiques. Or, le pape François, on le sait, a exprimé plus d'une fois son désir de travailler à l'unité des chrétiens. Les deux hommes ont déjà prié ensemble pour que soient surmontées les divisions entre les disciples du Christ. Les migrants représentent une ressource pour le développement humain. Le cardinal hondurien Oscar Rodriguez Maradiaga, président de Caritas Internationalis, l'a réaffirmé à Washington, où se tenait une conférence sur les migrations organisée sous les auspices de la Conférence des évêques catholiques. Et ce, alors même que l'administration Obama semble dépassée par une crise politique et humanitaire provoquée par un afflux massif d'immigrants illégaux mineurs. Dans son intervention, le cardinal Maradiaga a invité l'administration Obama à ratifier la Convention pour les droits de l'enfance et à veiller à l'éducation des immigrés mineurs. Olivier Bonnel.
Les deux tiers des footballeurs du Mondial 2014 sont des immigrés. Le cardinal Maradiaga, l'un des 9 cardinaux conseillers du pape François, affectionne les formules choc. Mais au-delà de la boutade, reconnaît-il, l'immigration rime le plus souvent avec peur, abus, exploitation, violence. Les mineurs, surtout, sont la proie facile des trafiquants de drogue, de la criminalité organisée, de la traite des fonctionnaires corrompus. Dans les pays d'accueil, ils sont parfois emprisonnés, négligés, expulsés, entravés. Et pourtant, paradoxalement, c'est la communauté internationale qui a peur. Tout en respectant l'indépendance et la culture de chaque nation, le prélat hondurien rappelle que la planète appartient à l'humanité tout entière et que le fait d'être né dans un lieu ne justifie pas que l'on soit contraint de vivre moins dignement. Les murs et les clôtures, avertit encore le cardinal Maradiaga, ne seront jamais assez hauts ni suffisamment résistants pour décourager des migrants déterminés à la recherche d'une vie meilleure. Le président Barack Obama a exhorté les parents à s'abstenir d'envoyer leurs enfants illégalement aux États-Unis en passant par le Mexique. L'immense majorité d'entre eux viennent du Guatemala, du Honduras et du Salvador et se rendent aux États-Unis dans l'espoir de fuir la violence et la pauvreté. Barack Obama a également exhorté le Congrès à approuver rapidement une enveloppe d'urgence de 3,7 milliards de dollars pour répondre à cet afflux de clandestins.
Selon l'exécutif américain, ce fonds permettrait d'augmenter les capacités d'arrestation et de détention de clandestins qui traversent la frontière, d'accélérer les expulsions d'adultes et de renforcer les services aux réfugiés mineurs non accompagnés. Selon l'archevêque de Séoul, l'une des principales attentes des catholiques sud-coréens quant à la visite du pape François à la mi-août en Corée du Sud concerne les relations intercoréennes. L'ensemble de la population sud-coréenne espère un miracle. Le cardinal Yeom a exprimé sa frustration face à l'absence des deux côtés de volonté de dialogue. Il compte sur le Saint-Père pour qu'une invitation soit lancée aux deux dirigeants ennemis à poser un geste de paix, voire à se rencontrer, ce qui constituerait une première depuis le sommet d'août 2007. Le pape François achèvera sa visite le 18 août par une messe pour la paix et la réconciliation en la cathédrale de Séoul. L'église catholique sud-coréenne prépare activement la participation d'une délégation catholique nord-coréenne à cette messe. Les délégués nord-coréens ont répondu à l'invitation qui leur a été faite en disant qu'ils l'étudieraient avec attention. J'ajoute que le 10 août, les membres du Conseil œcuménique des églises sont invités à prier pour la réunification pacifique de la péninsule coréenne. Ce fut une première mondiale très médiatisée. Le 18 décembre 2013, un patient a reçu pour la première fois un cœur entièrement artificiel après une dizaine d'heures d'opération à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Une avancée médicale pilotée par deux cardiologues, le professeur Carpentier et le professeur Latrémouille. Si le patient est décédé après 75 jours, les enseignements sont très encourageants en ce qui concerne les perspectives d'implantation de nouveaux organes. Le professeur Christian Latrémouille est venu à Rome à titre personnel. Il a rencontré notamment le Conseil pontifical pour la pastorale de la santé. Il revient sur cette première implantation, ses espoirs et les questions éthiques qu'elle soulève.
C'est un cœur qui est biocompatible, c'est-à-dire que les grands écueils actuellement de tous les systèmes qui sont utilisés comme système, ce qu'on appelle d'assistance circulatoire, sont toujours liés à des écueils de traitement dit anticoagulant, qui est un médicament qui permet de fluidifier le sang, puisque toutes ces machines jusqu'à maintenant sont mécaniques. Et à partir du moment où le sang passe dans une machine mécanique, il y a un risque de formation de petits caillots qui peuvent soit bloquer le système, soit envoyer des caillots qui partiraient à ce moment-là, soit dans le cerveau, entraînant des accidents vasculaires cérébraux ou dans d'autres organes. C'est un écueil extrêmement important et qui limite beaucoup le développement actuel de toutes ces technologies. Le cœur Carmat, qui est un cœur bioprothétique, lui est recouvert à l'intérieur de ses cavités de tissus péricardiques, c'est-à-dire qui sont utilisés déjà depuis pratiquement une quarantaine d'années. On utilise des valves en péricarde. Et ces valves ont justement la particularité de ne pas avoir besoin d'un traitement anticoagulant, donc pas de risque d'hémorragie, pas de risque de formation de caillots. Et on a des reculs chez des patients de plus de 60 ans avec ces valves-là pendant 25 ans de patients qui n'utilisent pas du tout de traitement anticoagulant et qui mènent une vie strictement normale. Donc l'objectif, c'est justement d'essayer de normaliser le confort de vie des patients chez qui on implanterait ces prothèses.
Est-ce que vous pouvez revenir sur les enseignements que vous avez tirés suite à cette opération, cette transplantation d'un cœur entièrement artificiel ?
L'enseignement qu'on a tiré de la première implantation, vous savez, elle a déjà été médiatisée, on avait une obligation entre guillemets de succès à 30 jours, de survie du patient à 30 jours, on est allé jusqu'à 74 jours, c'est-à-dire 2,5 fois ce qui nous était demandé, sans aucun accident justement, ni hémorragique, ni de formation de caillots, c'est-à-dire qu'en fait, ça nous a permis de valider pratiquement complètement. C'est peut-être encore un petit peu précoce parce qu'il n'y a eu qu'une implantation, mais en tout cas, on est dans une très bonne voie pour valider tout le côté bioprothétique. Et ça, c'est extrêmement encourageant pour l'avenir. Le deuxième côté d'adaptation, c'est encore trop précoce pour dire qu'il a été validé, puisqu'il faut avoir un patient qui reprendra une activité physique pour vérifier tout cela. Mais par contre, cela a été vérifié par ce qu'on appelle des épreuves pharmacodynamiques, surtout chez l'animal d'ailleurs, qui nous montre que le cœur peut s'adapter à des variations induites actuellement par des médicaments.
Si vous avez développé ce cœur artificiel, c'est aussi parce qu'il y a une carence dans le don d'organes, le don tout simplement de cœur de la part des patients.
Alors voilà, donc on a développé, et le mérite en revient surtout au professeur Carpentier, qui a travaillé dessus depuis plus de 30 ans, qui est un pionnier de la chirurgie cardiaque, de la cardiologie, qui a fait avancer énormément de domaines de la cardiologie et qui notamment a beaucoup travaillé toute sa vie sur ces tissus biologiques. Alors, effectivement, je vous ai dit que le programme de la transplantation cardiaque laissait de côté plus de 90% des patients qui auraient besoin soit d'un cœur organe ou d'un cœur prothèse. Alors, c'est pour combler ces 90% manquants, finalement, ou en tout cas déjà 20 à 30%, ce serait déjà énorme, pour pouvoir justement permettre à des patients d'avoir un espoir et d'avoir une prolongation de la vie avec une prothèse qui apporte un confort de vie réel, puisqu'elle s'adaptera à la vie de tous les jours et elle permettra d'avoir une médication très limitée, ce qui n'est pas le cas actuellement des patients qui sont sous transplantation, qui ont une transplantation.
Alors l'Église, le Conseil pontifical pour la santé, s'intéresse évidemment aux avancées médicales, à cette implantation. C'est important pour vous justement que l'Église aussi se positionne sur ce genre de sujet. En quoi ça vous encourage aussi peut-être dans votre métier ?
Je pense que c'est effectivement important parce qu'il y a d'une part le côté technique, technologique, biologique. Et puis au-delà de ça, c'est l'implantation d'une prothèse de façon définitive. Or, jusqu'à maintenant, la majorité des prothèses étaient de façon temporaire, en attendant justement la transplantation, etc. Alors, un cœur artificiel comme ça, d'un côté, résout le problème du don d'organes, ou en tout cas, c'est encore un peu présomptueux parce que c'est sans doute un peu tôt, mais va dans ce sens-là. Mais par contre, on part sur une autre problématique éthique où la religion a sa part de prise de position. C'est-à-dire qu'on va implanter une prothèse à terme, j'espère, qui durera le plus longtemps possible, mais bien entendu, à terme, il y a la notion de savoir quelle devient la définition de la mort. On peut avoir une prothèse qui tourne avec un organisme à l'arrivée qui ne fonctionnera plus très bien au niveau cérébral ou dans ses autres fonctions pulmonaires, rénales, etc. Et à ce moment-là, se posera sans doute la notion qui arrête et sur quels critères arrête-t-on une telle machine. C'est ce qu'on appelle la destination thérapie et qui pose un certain nombre de problèmes éthiques. Il y a déjà des groupes de réflexion qui sont réunis, notamment aux États-Unis. Et puis en France, nous, on a déjà même initié un petit groupe de réflexion au sein de notre hôpital. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion éthique qui se pose et qui se posera dans les années à venir, qui n'apportera pas bien sûr une solution du jour au lendemain, mais qui permettra d'avoir des groupes de réflexion qui permettent de progresser pour pouvoir répondre aux situations dans lesquelles on se retrouvera avec des patients qui auront bénéficié de ce type de prothèse.
Le chirurgien français Christian Latrémouille, interrogé par Olivier Bonnel. La communauté œcuménique de Thésée prépare déjà les célébrations anniversaires de 2015, les 75 ans de sa fondation et le centenaire de la naissance de son fondateur, frère Roger, 10 ans après sa mort. Le point culminant de ces anniversaires aura lieu dans un an, du 9 au 16 août 2015. Un rassemblement international réunira avec les jeunes des intervenants de la société civile, des représentants des églises et des personnes en situation de précarité. Chaque dimanche, des milliers de jeunes se rendent auprès de la communauté œcuménique pour une semaine de partage et de prière. Pendant tout l'été, ces jeunes venant de tous les continents continueront à approfondir la réflexion proposée par frère Aloïs, prieur de Thésée, pour chercher de nouvelles formes de solidarité dans le monde d'aujourd'hui. Circonstance plutôt rare dans l'histoire, l'Église compte actuellement deux papes, un pape émérite allemand et un pape en exercice argentin. À quelques jours de la finale de la Coupe du monde de football qui opposera l'Allemagne à l'Argentine, cela ne pouvait pas manquer de susciter des commentaires dans la presse et un vif intérêt dans l'opinion publique. Xavier Sartre.
Le 2 juillet, dans les colonnes du très austère Osservatore Romano, on pouvait lire qu'une finale Argentine-Allemagne, avec deux supporters d'exception comme le pape François et Benoît XVI, pourrait entrer directement dans l'histoire du football. Mais le pronostic n'était juste qu'en partie. Le match de dimanche opposera bien ces deux équipes, mais selon l'AFP, il est toutefois exclu que Benoît XVI le regarde, a fortiori en compagnie du pape François. Théologien, intellectuel, pianiste, Benoît XVI n'a jamais été un sportif. Les matchs de foot, ce n'est pas son truc. Il est en revanche tout à fait plausible que son successeur se mette dimanche soir devant son poste de télévision pour assister à cette finale que les réseaux sociaux ont d'ores et déjà appelée la finale des deux papes. Supporter avoué du club argentin San Lorenzo, le pape François suit encore avec assiduité depuis son élection l'actualité de son club favori, y compris par téléphone, et continuerait même à payer sa cotisation. Si l'on en croit l'agence Immédia, avant le match Argentine-Suisse, il avait lancé en plaisantant à plusieurs gardes suisses « ça va être la guerre ». En tout cas, cette finale des deux papes a d'ores et déjà fait une entrée fracassante sur les réseaux sociaux. Un tweet de Rai News publie un photomontage montrant les deux papes priant ensemble, mais chacun pour son équipe. Quant au père Federico Lombardi, directeur du bureau de presse du Saint-Siège, il a répondu à ceux qui l'interrogeaient qu'il n'avait pas d'informations à ce sujet à trois jours de l'événement.
Et après ce clin d'œil, beaucoup plus sérieusement, sachez que mercredi, le pape François a reçu en audience le fondateur du chemin néo-catéchuménal, Kiko Arguello. Je vous rappelle que le 3 avril dernier, le Saint-Père avait confirmé la pratique liturgique du chemin néo-catéchuménal quant à l'Eucharistie et à la Vigile Pascale. Kiko Arguello lui avait envoyé un courrier pour lui exprimer sa préoccupation au sujet de certaines interprétations négatives des paroles que le pape François avait adressées début février à un groupe de 12 000 néo-catéchumènes. À l'occasion de l'envoi en mission de familles membres du mouvement, le souverain pontife avait en effet souligné l'importance de la communion ecclésiale avec les diocèses, invitant les familles famille missionnaire à faire des concessions sur certains détails. Selon Kiko Arguello, ces paroles avaient entraîné dans certains diocèses la suppression de l'Eucharistie célébrée en communauté le samedi soir et celle de la vigile pascale, pourtant approuvée par les statuts du chemin. D'où la lettre du 3 avril. Depuis le début de son pontificat, le pape François s'est montré conscient de l'importance des mouvements pour la vie de l'Église et de leur besoin de reconnaissance. Communion et Libération, Focolari, Santé Gidio, Chemin néo-catéchuménal et tant d'autres. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français.